Oui, bonjour, merci d'être là. Nous allons commencer. Donc pour ce débat sur le champ politique, du local à l'international, c'est Corinne Deloye qui va présenter nos invités et animer le débat. Corinne Deloye est chargée d'études à l'Institut d'études politiques de Paris. Elle a réalisé notamment... Deux études sur la féminisation du pouvoir dans le monde politique et dans le monde du travail. À vous, Corinne Deloye.
Vous voulez que je présente les invités tout de suite ? D'accord. Alors, à ma droite, Véronique de Kayser, qui est professeure à l'Université de Liège et qui est également députée européenne depuis 2001. Et qui est une députée socialiste, hein, qui était numéro 2 de la liste socialiste lors des dernières élections, et qui est coordonnateur à la commission de la politique étrangère, plus spécialiste précisément du Moyen-Orient, des pays du Moyen-Orient. À ma gauche, en veste blanche, Catherine Génisson, qui est médecin anesthésiste et qui est députée socialiste du Pas-de-Calais, qui est également vice-présidente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, et qui est membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes à l'Assemblée nationale. À sa gauche, Françoise Gaspard, qui est sociologue, maîtresse de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur les femmes en faveur des droits des femmes, de la parité, et qui a également occupé des fonctions politiques précédemment, puisqu'elle a été maire de Dreux, de 1977 à 1983, qu'elle a été également conseillère municipale de cette même ville, députée européenne de 1979 à 1981 et députée d'Eure-et-Loir de 1981 à 1988. Françoise Gaspard est également à la commission de la condition de la femme de l'ONU. Non, je me trompe.
J'ai été représentante de la France à la commission de la condition de la femme et je suis depuis 5 ans... experte indépendante du comité CEDAW de l'ONU, dont on reparlera peut-être tout à l'heure.
Tout à fait. Voilà, pour les invités d'aujourd'hui. Pour introduire ce débat sur les femmes dans le champ politique, je vais vous faire une courte introduction qui porte plus précisément sur la représentation politique des femmes en France et élargie un peu à l'Union européenne. Donc, comme vous le savez, les Françaises sont devenues très tardivement en Europe électrices et éligibles, hein, donc en 1944, ça fait 60 ans, 61 ans. Si l'on regarde du côté du comportement électoral, la seule vraie différence qui existe encore entre les hommes et les femmes concerne le vote aux extrêmes. Hein. Par exemple, si les femmes avaient été les seules électrices en avril 2002, Jean-Marie Le Pen n'aurait pas été présent au deuxième tour. Donc les femmes votent moins souvent aux extrêmes, mais en ce qui concerne le vote qui dépend des seules femmes et de leur seul choix dans l'isoloir, le bilan est positif 60 ans après, puisque même si elles continuent à s'abstenir un peu plus que les hommes, les femmes, le bilan est donc positif côté vote. Du côté de l'éligibilité, la situation est beaucoup plus délicate, incertaine, mais du côté de l'éligibilité, cette éligibilité dépend de nombreux autres facteurs. Alors, les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale, 45% de la population active, et au niveau mondial, un peu plus de 15% des élus. L'Europe est un peu au-dessus de la moyenne, avec 17,8% des élus, donc toujours très faible, mais un peu au-dessus de la moyenne, et certains pays de l'Union européenne, en fait 9 États seulement, sur 25, comptent plus de 30% de femmes dans leur parlement. 30% étant le seuil défini par le Conseil de l'Europe comme le seuil à partir duquel les femmes sont véritablement influentes, peuvent avoir une véritable influence au sein des assemblées dans lesquelles elles siègent. Donc ces pays sont, vous les connaissez, les pays scandinaves principalement, avec plus de 40%, mais également des pays situés plutôt au nord de l'Europe, l'Allemagne ou l'Autriche ou la Belgique, et depuis très récemment l'Espagne. Et la France, parmi ces pays, par exemple, de l'Union européenne, avec 12,3% de femmes députées, se situe au 21e rang de l'Union européenne, 21e sur 25, et au 69e rang mondial. Donc, très loin. Au niveau local ou au niveau régional, la configuration est à peu près identique, puisque les pays du nord de l'Europe possèdent des assemblées régionales ou locales beaucoup plus féminisées que les pays du sud et que la France. Donc la France est à la traîne de ses partenaires, même si, évidemment, lors des dernières élections régionales, l'application de la parité a fait remonter le nombre de femmes présentes dans les assemblées régionales, puisqu'elles sont maintenant un peu plus de 47%. Cependant, elles restent, même élues, sous-représentées au niveau des hiérarchies des assemblées régionales et des postes à responsabilité. Vous savez qu'une seule femme est présidente de région et trois femmes seulement sont présidentes de conseils généraux. D'ailleurs, on notera que les conseillers généraux, les élections cantonales n'ont pas bénéficié de l'effet d'entraînement qu'aurait pu entraîner la parité, puisque les élections cantonales, les deux dernières élections cantonales se déroulaient le même jour que des élections où la parité était appliquée, et donc aucun effet d'entraînement. On peut quand même dire que si les femmes sont absentes des assemblées, en tout cas en France, très peu présentes, elles ne sont pas complètement absentes du pouvoir, puisqu'elles ont plus accès aux fonctions ministérielles, proportionnellement, qu'elles n'ont accès à la députation ou à la fonction de représentante. Trois d'entre elles, d'ailleurs, comme vous savez, entrèrent au gouvernement avant même que les femmes aient le droit de vote et d'éligibilité. Mais les différences entre un poste de ministre et un poste de député sont nombreuses. Tout d'abord, un ministre est nommé, donc il est révocable à tout moment et sans préavis. Il est nommé dans 99,9% par un homme. Et surtout, un ministre gouverne. Il n'a pas pour fonction de représenter, il gouverne. Il est d'ailleurs choisi pour ses compétences, son expérience personnelle, et donc ne tient pas son sort et ses fonctions d'une élection. Il ne représente pas. La fonction de la représentation lui échappe complètement. Donc les femmes sont peut-être moins interdites d'accès au pouvoir politique qu'elles sont écartées ou privées de la possibilité d'être représentante. Alors, ce qu'on a appelé le mal français, cette absence de femmes au sein des organes de décision, a longtemps été expliquée en France par des raisons historiques. La loi Salique, qui écartait les femmes du trône de France, la Révolution française, qui les a écartées de la citoyenneté. Et à ces raisons historiques qui existent, se mêlent d'autres raisons plus structurelles, d'autres causes plus structurelles que je voudrais exposer très rapidement. En ce qui concerne la représentation, donc l'accès des femmes à la candidature et après à l'élection, quatre facteurs principaux sont importants, déterminent ou affectent cet accès des femmes, qui sont le système électoral tout d'abord, et donc le mode de scrutin en vigueur, la loi électorale au sens large, au sens où des mesures qui peuvent être prises en faveur d'un meilleur, d'un plus juste accès des femmes à la représentation politique, les partis politiques, bien sûr, et enfin la société. Alors, le système électoral, qui est évidemment le moyen par lequel les votes deviennent des sièges et donc des représentants, est essentiel. La grande majorité des États dans lesquels les femmes occupent plus de 30% des assemblées, où il y a au moins 30% des élus, appliquent un système proportionnel et un système proportionnel de liste. Alors, le système proportionnel qui donc de liste, et sur une liste, il est non seulement possible, mais évidemment recommandé que les femmes soient présentes, pour pas que l'absence de femmes n'ait un effet négatif. Donc, les chances des femmes d'être élues sont augmentées. Et par ailleurs, généralement, beaucoup plus de formations concourent dans des scrutins de liste, ce qui augmente encore le nombre de candidates et donc la possibilité d'être élue. Les élections européennes, par exemple, témoignent du fait que le scrutin proportionnel de liste est plus favorable à la représentation des femmes. Le Parlement de Strasbourg compte 30% de femmes. On constate d'ailleurs que les États membres qui possèdent le plus faible niveau de représentation féminine au sein de leurs propres assemblées nationales sont en tête, comptent un pourcentage élevé de femmes au niveau européen. La France est dans ce cas, puisque 43,5% d'élus et 12% à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, la parité a été appliquée en 2004, lors des dernières élections, mais même entre 1999 et 2004, les Françaises représentaient 42% des élus français à Strasbourg, donc étaient des femmes. Évidemment, il faut dire tout de suite que les carrières politiques se font principalement au niveau national encore,
et que l'arène européenne est généralement délaissée par les hommes politiques, et donc les femmes y ont plus facilement accès. Alors, le rôle des partis politiques, évidemment, il est essentiel, puisque c'est eux qui sélectionnent les candidats. On a noté que, en gros, si la sélection, enfin, si la volonté d'intégrer plus de femmes parmi les élus, parmi les candidates, en tout cas, doit venir généralement de la hiérarchie, de la formation, les femmes sont beaucoup plus, sont beaucoup mieux représentées lorsque la sélection part des militants et de la base, et non pas, évidemment, de l'unité centrale, je dirais, du parti. La féminisation des formations politiques est quelque peu sensible, affectée par leur idéologie. Il est évident que les formations politiques plus sensibles au progrès social ou qui mettent plus facilement en avant les thèmes de l'égalité, de la modernisation et du changement nécessaire sont plus, ont été engagées plus tôt et plus avant vers dans le combat pour une meilleure, plus juste représentation des femmes. Ce sont les formations de gauche, plus que les formations de droite qui sont plus sensibles, qui sont plus favorables à la liberté de choix, qui ont donc été moins engagées. Les écologistes ont été très engagés dans ce combat très tôt, en intégrant des femmes au sein de leur structure interne, beaucoup plus que les autres formations. Enfin, la loi électorale, donc trois États en Europe, qui sont la Belgique, la France et, même si c'est au niveau local, la Grèce, ont pris des mesures législatives pour favoriser une meilleure représentation des femmes. Donc vous connaissez la loi de 1999, enfin la France a inscrit en 1999 la parité dans sa constitution, comme vous savez, qui favorise l'égal accès des hommes et des femmes l'égal accès aux fonctions électives, aux mandats électoraux, aux fonctions électives, mais elle fait reposer cette responsabilité sur les formations politiques qui sont donc chargées de mettre en œuvre ce principe. Donc, comme vous savez, la parité n'a pas a pour objectif de non pas de représenter une minorité, mais de rendre, d'aider à la visibilité des femmes au sein de l'espace public au nom de la simple égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, elle a été votée à titre définitif et non pas provisoire, comme le sont très souvent les quotas. Alors, les municipales de 2001 ont été le premier test, 30% de femmes élues, soit 80% de plus que lors du précédent scrutin de 95, donc un succès, si on peut dire. Et le problème est principalement que la loi laisse le choix aux formations politiques soit de présenter 50% d'élus, ce qui est la loi minimum, on peut en présenter plus, soit de payer une amende s'ils ne le font pas. Et les élections législatives de 2002, qui ont été les premières élections au scrutin uninominal à appliquer, où la parité a été appliquée, on constate que l'UMP a réglé une amende de 4 millions d'euros et le Parti socialiste de 1,5 million d'euros, puisque à droite, enfin UDF et UMP, RPR à l'époque, non UMP d'ailleurs, ont présenté à peu près 20% de candidates et le Parti socialiste environ 35%. Donc, à part la parité et les quotas, l'établissement, la mise en place de façon législative des quotas en Belgique, 26 partis politiques au sein des 25 États de l'Union appliquent également des quotas pour favoriser la féminisation de la vie politique et donc des quotas dans les candidatures des femmes. Pour, en général, ces quotas sont de minimum de 30-40%, qui est donc le seuil considéré comme un seuil où le nombre des femmes n'est pas un simple alibi, mais où les femmes peuvent avoir une réelle influence au sein de l'Assemblée. Enfin, le rôle de la société civile dans les pays scandinaves, qui sont donc à la pointe, ou près de la moitié des parlements, plus de 40% d'élus dans les parlements scandinaves, des gouvernements paritaires, l'augmentation du nombre de femmes au sein des élus ces 30 dernières années a résulté d'une mobilisation et d'une pression soutenue des syndicats, des associations féministes, des femmes elles-mêmes sur les partis politiques et les institutions, des pressions qui ont conduit donc les formations politiques a adopté très tôt, enfin il y a 30 ans, des quotas au niveau des candidatures et a intégré également des quotas au niveau de l'attribution des responsabilités au sein des formations politiques elles-mêmes. Alors en France, l'accès à la représentation politique n'a pas constitué une priorité, on va dire, du mouvement féministe ou des mouvements féministes des années 70, à l'époque où il était très influent. D'autres combats étaient à cette époque, comme le droit à la libre disposition de son corps, le droit à l'égalité professionnelle, le partage des tâches. Enfin, d'autres thèmes étaient plus
essentielles. Où on ne pouvait pas lutter sur tous les fronts, on a lutté plutôt sur ceux-là chez nous. Alors, l'augmentation du nombre de femmes élues ces dernières années est due donc pour une grande part à l'influence des organisations et des mouvements féministes et à leur pression. On l'a vu autour de la parité, la loi sur la parité, une pression des femmes sur les institutions, sur les politiques. Et dernière chose, je voudrais conclure avec justement, enfin, ça rejoint à la parité, l'apport de l'Union européenne à cette question, puisque dès le début des années 90, après la chute du mur, le Conseil de l'Europe avait mis en place un groupe de travail chargé de réfléchir à la représentation paritaire, enfin à la nécessaire transformation et modernisation de la démocratie, et donc avait mis en place un groupe chargé de réfléchir à la parité, à la représentation paritaire. Donc l'Union européenne, par ses travaux et par l'inscription justement de la parité à l'agenda politique, beaucoup œuvré en faveur de la représentation des femmes. Et je rappellerai que d'ailleurs l'égalité des sexes, qui est définie fait partie des objectifs de l'Union qui sont définis dans la Charte des droits fondamentaux, qui figure dans la Constitution, enfin dans l'éventuelle future Constitution européenne. Et pour conclure, je voudrais juste rappeler un mot d'un philosophe du XVIIe siècle qui disait que la liberté, l'accès au savoir et l'accès aux responsabilités étaient les trois bastions à conquérir pour les femmes. Alors les deux premiers, la liberté et l'accès au savoir, tout au moins et seulement dans nos sociétés européennes ou occidentales, ont cédé. Et en revanche, le troisième reste à conquérir largement, donc l'accès aux responsabilités. Et rappelez donc que 60 ans après le 21 avril 1944, si les femmes ont gagné le droit d'être représentées, il est largement temps, il est l'heure pour elles maintenant de gagner, en tout cas en France, d'avoir enfin accès à leur statut de représentante. Voilà, alors, un bref aperçu donc de la situation actuelle de la représentation politique des femmes. Et nous allons maintenant laisser la parole à nos invités qui ont certainement chacune beaucoup à nous dire sur ce sujet qu'elles connaissent bien. Alors, une première question assez large. Vous occupez toutes les trois, ou vous avez occupé pour Françoise Gaspard, des fonctions politiques importantes. Est-ce que chacune d'entre vous peut nous dire quelques mots sur son parcours et sur le fait, sur son parcours personnel, sur le fait d'être une femme au sein d'un monde politique très majoritairement masculin? Je ne sais pas qui veut commencer. Madame de Kayser.
Oui, volontiers. Je suis femme politique depuis peu de temps, depuis 2001, donc c'est pas très long. Avant ça, j'ai fait 30 ans de carrière universitaire. Effectivement, dans une université très misogyne, il en existe, puisqu'il n'y avait pas 5%, je pense, de professeurs ordinaires féminins. Quand je suis entrée, j'étais la première femme doyenne de cette université. Voilà, et puis je suis passée en politique dans un parti qui s'était largement féminisé, mais où, malgré tout, la constitution des listes électorales donnait lieu à des marchandages épouvantables, puisqu'on disait « il faut que vous apportiez votre quota de femmes ». C'était comme les quotas laitiers, donc on devait avaler ça. Mais je pense que, malgré tout, c'était la seule manière, finalement, d'arriver à avoir une représentativité politique des femmes, c'est-à-dire ces fameux quotas que nous subissions avec rage. Alors maintenant, c'est vrai que au Parlement européen, comme on l'a dit, il y a une assez large féminisation. Vous l'avez dit peut-être parce que l'Europe, dont on y dit qu'elle est tellement importante, n'intéresse peut-être pas tellement d'hommes politiques. Mais je voudrais tout de même dire, et ça j'en reparlerai après, que cette féminisation, et notamment dans cette législature-ci, où il y a beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes notamment qui nous ont rejoints des ex-pays candidats, ne signifie pas pour autant une amélioration finalement du combat des femmes. Et que ce n'est pas parce que les femmes sont en politique que le combat des femmes politiques gagne peut-être davantage de terrain. Et je voudrais en parler tout à l'heure, mais je voudrais dire un seul mot par rapport à ça. Je vous en avais parlé, je lisais avant de venir ici un interview de Hillary Clinton qui s'apprête à briguer ultérieurement la présidence des États-Unis, qui songe beaucoup en se rasant le matin peut-être, mais non, très sérieusement, j'ai été effarée de voir cette interview. Et j'ai été effarée de voir que Hillary Clinton avait abandonné son combat pour l'avortement et qu'elle était maintenant très sensible à la peine de mort. Donc vous voyez qu'à partir du moment où on arrive en politique, il y a des combats de femmes qui pourraient se perdre. Et j'aurai peut-être l'occasion de donner un aperçu tout à l'heure de cette nouvelle législature au Parlement européen qui nous cause beaucoup de problèmes et des problèmes causés par les femmes.
Merci. Mesdames,
bon, que dire, je suis universitaire aussi. J'ai commencé ma carrière à l'université. Ensuite, j'ai fait l'ENA et j'ai été candidate en 1977. J'avais déjà été candidate à des élections cantonales en 1973. J'avais eu droit à la une du Monde parce que j'étais une des seules femmes en France candidate à cette élection. J'avais été battue et en 1977 j'ai conduit la liste de gauche aux élections municipales de Dreux. J'avais 30 ans, j'étais sans doute assez naïve encore, mais ce qu'il faut savoir, c'est si j'ai été investie pour cette candidature, c'est bien sûr parce que ce n'était pas gagnable, qu'aucun homme n'imaginer que la liste de gauche pouvait l'emporter. Donc la bataille n'a pas été très rude pour moi pour être candidate, même si, même quand les positions sont pas forcément gagnables, il y a toujours des ambitions masculines qui sont là. Et il se trouve que la liste que je conduisais a été élue et que j'ai fait partie donc entre 1977 et 1983 du 1% de femmes maires en France. Ce qui était une situation intéressante et embarrassante, parce qu'on me mettait sur les estrades comme une espèce de potiche. Le Parti socialiste pouvait dire « nous avons une femme ». Et comme ça, on ne voyait pas le manque par ailleurs. J'étais ensuite élue aux européennes et aux législatives, et à peu près dans les mêmes conditions. D'ailleurs, aux législatives, j'avais hésité à me présenter en 1981. Et si je l'ai fait, c'est parce que la circonscription étant devenue potentiellement gagnable, il y avait des parachutes qui s'ouvraient au-dessus de cette circonscription, des jeunes messieurs de Paris qui souhaitaient venir. Mon idée, je le dis parce que c'est peut-être un problème de femmes aussi, quand j'ai été élue, je n'avais pas du tout programmé de l'être, et en tout cas, il y a quelque chose qui me tenait à cœur. Je savais que je ne voulais pas faire de la politique, en tout cas de la politique en tant que représentante, toute ma vie. Que je considérais que c'était une mission et pas un métier, c'était une fonction et pas un destin, et qu'il est nécessaire, il serait nécessaire pour renouveler la démocratie, ou simplement pour la faire fonctionner, non seulement qu'il n'y ait pas, c'est un mal français, de cumul des mandats au même instant, mais qu'on ne puisse pas briguer un mandat éternellement, parce que la politique, dans ce cas, effectivement, devient un métier, et on perd, je crois, on risque de perdre le contact avec le terrain. Il faut retourner à la vie civile de temps en temps. Avec d'autres au sein du Parti socialiste, dont certaines sont dans la salle, nous avons mené un combat à la fin des années 70. C'était une espèce de c'était le féminisme qui arrivait dans les partis politiques. Nous étions féministes au sein du Parti socialiste pour protester contre le sort qui nous était fait, et pour protester aussi contre l'absence d'intégration de ce qu'on appelle aujourd'hui la dimension du genre dans les projets et programmes du Parti socialiste. Ça avait fait bouger à l'époque un petit peu les choses. Ça a été une bataille difficile. Et puis, nous avons mené une autre bataille sur laquelle je terminerai, qui est effectivement celle de la parité. Partions d'un constat. Quand on regardait l'évolution du pourcentage des femmes dans les différentes assemblées élues, c'est que la situation ne changerait que sous la contrainte, que s'il y avait une obligation législative. D'autres pays sont parvenus sans législation à augmenter le nombre des femmes. Je pense par exemple à l'Espagne, où aujourd'hui il y a au Parlement sans législation plus de 30% des femmes et où le gouvernement est absolument paritaire et où on a pu lire dans Le Monde une interview du Premier ministre Zapatero il y a quelques mois disant que pour lui, plus important que les 35 heures était la parité ou au moins aussi important et qu'une société dans laquelle il n'y avait pas autant de femmes que d'hommes dans la représentation se privait non seulement de talent mais était en décalage par rapport à la société elle-même. Nous savions qu'en France, s'il n'y avait pas de contraintes, la situation ne bougerait pas. Je ne reviendrai pas sur le constat qui a été fait en introduction. On voit que ça ne bouge que là où il y a, contraintes. On me dit aussi, mais ça Catherine Génisson pourra peut-être en parler mieux que moi, parce que j'ai toujours ma carte au Parti Socialiste. Je ne participe plus beaucoup au débat à l'intérieur du parti, d'une part parce que je vis à l'ONU à New York une grande partie de l'année, et ensuite parce que c'est vrai que je suis un petit peu découragée. Bon, donc il faut que d'autres, c'est bien que d'autres reprennent le flambeau. On me dit que à l'intérieur du Parti Socialiste, les hommes feraient une crise post-paritium. Que, autrement dit, disent, ben voilà, vous avez la parité, maintenant, ça suffit comme ça. Je montrais à Catherine, qui était d'ailleurs au courant, avec beaucoup de tristesse et de colère aussi, le programme du parti, d'un colloque qu'organise le Parti Socialiste, 100 ans de socialisme, puisque le Parti Socialiste français aura 100 ans cette année. Et j'avais envie de mettre un sous-titre, 100 ans de socialiste et une femme, puisque sur les 17 intervenants, on n'a trouvé qu'une seule femme pour parler, ou plutôt on est allé chercher qu'une seule femme. Donc il y a un véritable problème qui demeure et qui montre que les organisations politiques, elles sont différentes. Certaines sont plus ouvertes, les Verts l'ont été, par exemple. Je me demande s'il n'y a pas un backlash là aussi aujourd'hui. Mais encore, il y a vraiment un décalage énorme entre les lieux politiques, les appareils politiques et la réalité de nos sociétés aujourd'hui. Merci.
Donc, Catherine Génisson, en ce qui me concerne, je suis médecin anesthésiste. J'ai adhéré avec la volonté de non seulement d'adhérer, mais de militer au Parti Socialiste en 1979. Et j'ai été élue conseillère municipale pour la première fois en 1983. Et je dois dire qu'en 1983, au-delà du dynamisme que j'avais montré à l'intérieur de la section à laquelle j'appartenais, si j'ai été sur la liste des municipales, c'est parce que j'étais à la fois une femme et à la fois médecin. Et ça faisait vraiment très bien sur la liste. Bon, ensuite, je pense que les militants m'ont reconduite parce que j'étais Catherine Génisson et que je pense avoir assumé mon mandat correctement. Mais la première fois que j'étais sur une liste, c'était pour cela. Donc j'ai été conseillère municipale jusqu'en 2004, poste duquel j'ai dû démissionner étant élue conseillère régionale. Et j'ai été élue pour la première fois députée en 1997. Et là aussi, je me souviens, quand j'étais candidate en 1997, le premier secrétaire fédéral de la Fédération du Pas-de-Calais m'avait dit que j'avais le meilleur candidat de droite face à moi, du département. Donc, ce qui prouvait que c'était évidemment une circonscription tout à fait gagnable d'emblée. Réélue en 2002 comme députée. Et j'ai été donc également depuis 2004 vice-présidente du conseil régional. Et en entendant François, je me disais que j'ai dérogé à ce que j'ai défendu très fortement, qui est le non-cumul des mandats. Mais je dois dire que dans le contexte politique actuel, et là aussi compte tenu du fait que j'étais la seule femme parlementaire du Pas-de-Calais, j'allais dire même du Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même une caractéristique des élections législatives de 2002, Compte tenu du fait qu'il fallait que les listes soient bien évidemment paritaires pour les élections régionales, j'étais numéro 2 de la liste au conseil régional et j'ai dérogé. C'est alors pour effectivement témoigner et aussi pour témoigner à la fois en tant que femme et politiquement, dans la mesure où je pense que nous sommes aujourd'hui obligés de prendre nos responsabilités, y compris au niveau exécutif, face à ce que développe le gouvernement actuel. Mais ça a été pour moi un vrai cas de conscience et je suis, comme Françoise, très attachée au non-cumul des mandats, avec aussi de façon conjointe la nécessité de parler du statut de l'élu. Je crois qu'on a, il ne faut pas rougir d'évoquer ces sujets-là devant nos concitoyens, parce que ce sont des sujets qui font correctement fonctionner la démocratie. Et parallèlement, et pour également suivre ce que disait Françoise, j'ai toujours tenu à vouloir continuer d'exercer mon métier, pour deux raisons. La première raison étant que cela donne une autre relation aux citoyens et au monde, et je pense que c'est très important. Ça permet de garder un contact très fort avec nos concitoyens. J'ai toujours considéré aussi que l'engagement politique, le mandat d'élu n'était ni un métier, n'était surtout pas un métier et ne devait pas être accaparé comme étant une fonction à vie. Et puis aussi parce que ça m'a permis de garder, j'allais dire, tout en étant totalement solidaire de mon parti, de l'indépendance par rapport au parti auquel j'appartiens. Et ça m'a empêché de faire des concessions que beaucoup sont parfois obligés de faire, dans la mesure où leur mandat d'élu devient finalement leur mandat d'existence et de vie dans la société. Et immanquablement, ça entraîne la nécessité, l'obligation de faire des concessions qui pourraient ne pas être acceptables. Donc, être élue femme, c'est un combat. C'est un combat, et quand on voit par exemple, et je crois que Françoise pourrait dire la même chose, après l'élection, la répartition des fonctions et des responsabilités à l'Assemblée nationale, il est bien évident qu'il y a deux combats. Il y a le combat des jeunes et des vieux, hein, parce que les anciens et les habitués connaissent bien la maison et ne transmettent pas tellement les informations permettant de savoir quelles sont les fonctions qui permettent de s'engager plus avant. Et puis, il y a le combat homme-femme qui est très, très important et qui perdure de façon très importante. Et je dois dire que, au niveau du Parti socialiste, alors qu'il semblait qu'il y ait eu une embellie après le combat des féministes, non seulement sur ce qu'on appelle les droits propres, mais sur tous les combats du féminisme, y compris sur celui de la représentativité, y compris celui de la représentativité en politique, qui est ô combien importante. Aujourd'hui, notre parti, le Parti socialiste, régresse. Et il est vrai que, on nous dit que la loi sur la parité a été votée. C'est pour solde de tout compte. Et arrêter d'en parler, avec d'ailleurs un conflit générationnel, les jeunes nous disant, mais c'est quand même pas nous qui allons nous tartiner l'application de la parité. Et comme le dit d'ailleurs souvent Yvette Rodi, elle dit, mais on ne veut pas prendre nos places, on veut simplement avoir les places auxquels nous avons droit. Mais aujourd'hui, c'est à chaque événement de rendez-vous, par exemple un colloque, l'organisation, nos journées d'organisation, par exemple de travail à La Rochelle l'été, nos universités d'été, si, comme je l'avais dit une fois, nous n'émettons pas un aboiement plaintif ou nous ne poussons pas des cris hystériques, nous sommes oubliés, nous sommes écartés, et je pense que nous ne sommes même pas oubliés, nous sommes écartés systématiquement, et nous sommes dans un climat absolument délétère et détestable, et c'est extrêmement, je trouve, dégradant de continuer à constater qu'il faille réclamer ce que nous devrions vivre naturellement, parce que nous sommes quand même la moitié de l'humanité. Et ça devrait, dans un parti dit progressiste, dit de gauche, ça devrait être une évidence, et ça n'est pas du tout une évidence aujourd'hui.
Merci beaucoup. J'avais une question sur la loi sur la parité. A-t-elle modifié quelque chose au sein des partis politiques? Mais je vois que vous venez d'y répondre, donc absolument pas avoir l'effet inverse, en tout cas pour l'instant. Est-ce que c'est la même chose en Belgique, hein, où il n'y a pas la loi sur la parité, mais il y a un système de quotas? Est-ce que vous pouvez nous parler de la Belgique?
Oui. Oui, certainement. Ça a permis, en tout cas, l'accession à des places, et y compris des places de pouvoir, des femmes, incontestablement. Cette représentation des femmes s'est accompagnée chez nous d'autres formes de représentation, je dirais un petit peu plus ethniques aujourd'hui, mais qui font un peu partie de la même logique et qui ont été ce qui était à la fois bien et mal perçu. C'est-à-dire que maintenant, les compositions des listes sont des compositions très bouclées. Bon, il faut hommes, femmes, il faut des Marocains parce que l'immigration marocaine est très présente, il faut des Turcs parce qu'il y a autant de Turcs, etc. Et on a un petit peu l'impression, alors que ça se place dans l'idée d'une représentation de toutes les fractions de la société sur les listes électorales, on a un petit peu l'impression d'un bouclage par quota de tout ce qui pourrait être un petit peu représentatif et surtout capteur de voix. Et c'est un peu dévoyé en ce sens qu'il faut des voix de femmes, il faut des voix de marocaines, c'est encore mieux si la femme est une marocaine, ce sera mieux. Et là, c'est évidemment, il n'y a pas de bonne solution. Je pense que c'est très utile et c'est très bien d'avoir une représentation au niveau des listes de la diversité culturelle de la population très mélangée dans laquelle on vit. Ce qui est plus gênant, c'est que ça devient une sorte d'oukase et d'attrape-voix. Et là, je ne connais pas la juste balance qu'il faudrait par rapport à ça. Oui. Ce qui a provoqué d'ailleurs, excusez-moi si je puis le faire, évidemment, beaucoup de remous dans la constitution des dernières listes électorales, parce qu'il faut en plus ajouter à ça, dans la composition des listes, comme ça on sera tout à fait complet, les candidats d'ouverture. Alors les candidats d'ouverture sont les candidats qui n'appartiennent pas, par exemple, à mon parti, le Parti Socialiste. Et donc on avait des listes absolument surréalistes où tout était bouclé et où finalement n'était pas bouclé. On nous demandait de voter sur des listes où il y avait des trous qui étaient pour les candidats d'ouverture, qu'on ne connaissait pas encore là. Et donc, c'est cette immense ouverture des listes aux femmes, aux groupes ethniques, aux gens des autres partis, donne des compositions qui, par moments, pour les militants, sont assez déroutantes, en disant, mais où est-ce qu'on peut aller se mettre, nous, maintenant que tout est pris, et par les femmes, et par les autres, et par les candidats d'ouverture. Donc, ça devient presque un dévoiement de cette ouverture. Mais le principe est bon. L'application, elle, pose de réels problèmes. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais en tout cas en Belgique, ça a été l'objet de quelques tensions.
Je crois que Françoise nous disait tout à l'heure qu'en France, et c'est une réalité, le sujet de la représentativité des femmes au poste de responsabilité politique ne se fait que sous la contrainte. Et Françoise évoquait tout à l'heure le sujet des élections cantonales pour lesquelles la loi ne s'applique pas et où on ne voit quasiment aucune évolution. C'est-à-dire au cours des différents scrutins, le nombre de femmes augmente de 1% à chaque scrutin, ce qui fait qu'il faudrait 70 ans si on ne trouve pas d'autre solution pour atteindre le principe de parité pour les élections dans les conseils généraux. Et en 1997, le premier secrétaire du moment, qui Lionel Jospin, avait souhaité appliquer un principe de quota pour les candidates femmes en exigeant qu'il y ait 30% de femmes candidates, et ce qui a d'ailleurs donné un excellent résultat, puisque à l'Assemblée nationale, nous sommes passés... Enfin, un excellent résultat. Nous avons doublé le nombre de femmes présentes à l'Assemblée nationale, nous sommes passés de 5,1 à 10,9% de femmes. Et en fait, c'est le groupe socialiste qui a amené ces femmes à l'Assemblée. Mais je pense que quand on défend le principe de quota, on n'est pas du tout dans la logique du principe de parité. Et on arrive très vite à ce que vous décrivez, qui est une logique communautaire, en fait, et non pas du tout une logique d'égalité, de représentativité des hommes et des femmes, les hommes et les femmes représentant l'universel, représentant chacun des deux groupes la moitié de cet universel. Avec d'ailleurs tout un débat qui a existé au moment où nous avons modifié la Constitution, puisqu'il y avait un certain nombre de nos... à la fois sociologues, philosophes et représentants politiques éminents qui étaient contre l'application de ce principe de parité par partant du principe que c'était une atteinte à l'universalisme. Mais on ne va pas revenir sur les débats, je pense, que vous avez connus hier, puisque vous avez rencontré, pour la plupart d'entre vous, sans doute Geneviève Fraisse, qui faisait partie de ces personnes qui étaient contre le principe de l'inscription de la parité dans la Constitution. Principe, d'ailleurs, qui n'est pas inscrit en tant que tel, puisque le président de la République s'était opposé à ce que le terme de parité figure dans la Constitution. Et la formule qui a été trouvée a été l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats et aux fonctions électives. En sachant d'ailleurs que la loi qui a été votée, qui permet cette application de ce principe inscrit dans la Constitution, est une loi qui ne définit le principe d'application de la parité uniquement pour les mandats, pour les fonctions, c'est-à-dire ce dont vous avez parlé, les postes à responsabilité, que ce soit dans les conseils régionaux, dans les conseils municipaux, il n'y a pas de loi qui permette cette application. Et la loi s'applique de façon différente selon les scrutins. Puisque quand il s'agit du scrutin à la proportionnelle, là, le principe de parité est obligatoire, alternance homme-femme, avec obligation de présenter 50% de candidats d'un sexe. Hein, on n'a pas le droit de présenter aussi plus de femmes que d'hommes. C'est vraiment 50% de candidats d'un sexe. Et par contre, pour les scrutins uninominaux, au premier chef desquels se trouve l'élection législative, les partis politiques sont pénalisés. Ils ne payent pas de pénalité, mais ils sont pénalisés dans leur financement politique, puisque vous savez que les partis politiques sont financés de façon publique, hein, maintenant, avec deux parties de financement, une partie qui concerne le nombre de voix qu'ont obtenu les partis politiques, et une deuxième partie qui concerne le nombre d'élus qu'ont obtenu les partis politiques. Et on voit très bien que les partis politiques qui savent qu'ils ne vont pas forcément avoir beaucoup d'élus favorisent la première partie du financement et sont très paritaires dans leur présentation de candidats et de candidates. Et les partis politiques qui envoient des élus à l'Assemblée nationale, bon, le Parti socialiste à gauche, le RPR, maintenant UMP à droite, ont préféré subir des pénalités que de présenter un nombre paritaire de candidats et de candidates aux élections. Ça, je crois que c'est très significatif. Mais il faut quand même dire que la loi sur la parité a beaucoup apporté en France et au sujet de la représentativité des femmes quand elle concernait les scrutins à la proportionnelle, puisque vous l'avez indiqué, pour les élections municipales, il y a 33% de femmes conseillères municipales, avec d'ailleurs pour les communes de plus de 3500 habitants, 47,5% de femmes. Et là, c'est le seul scrutin où la loi a eu un effet d'entraînement, même quand elle ne s'appliquait pas, puisque pour les communes de moins de 3500 habitants, il y a aussi 30% de femmes conseillères municipales, alors que la loi ne l'obligeait pas. Je crois que c'est peut-être le point le plus positif de l'application de la loi sur la parité. C'est pareil pour les élections régionales et européennes, en sachant, et je le disais en aparté à Françoise, que pour les élections européennes, si nous avons ce nombre important de femmes élues au Parlement européen, c'est parce que le Parti socialiste français a fait un bon score, parce que toutes nos têtes de liste étaient des hommes dans le mode d'élection qui a prévalu pour ces élections européennes, sauf une région, mais c'était une région où on savait que nous avions que deux députés européens et que ça n'avait aucune importance de faire 1-2 ou 2-1. Mais donc je crois qu'on peut quand même dire que l'application de la loi présente une certaine efficacité. Et ce qui me semble très important de dire aussi, c'est qu'autant il y a, semble-t-il, actuellement une rétraction des partis politiques. Bon, j'ai parlé du Parti socialiste, mais je pense que malheureusement, tous les partis politiques sont touchés par cette attitude de rétraction par rapport au principe de la parité. Mais à l'inverse, et là, je fais part de mon expérience d'élu, la population, nos concitoyens, sont tout à fait acquis à l'application de ce principe de parité, ont des relations, j'allais dire, tout à fait égales et sans aucune discrimination envers leurs élus femmes et envers leurs élus hommes.
Merci beaucoup.
Peut-être un mot de réflexion là-dessus. Le premier, par rapport à ce que disait Véronique tout à l'heure, il y a effectivement un risque à mettre sur le même plan les femmes et les autres catégories. Or, les femmes sont dans toutes les catégories, ce qui doit être donc regardé de façon différente. La deuxième chose, c'est que la parité, l'idée de parité en France comme dans d'autres pays, parce que le débat a eu lieu dans d'autres pays, a été imposé au fond par le très haut et par le très bas. Les très hauts, c'est les institutions supranationales. Vous avez cité tout à l'heure le Conseil de l'Europe. La Commission européenne, elle joue aussi un rôle important dans l'idée d'égale représentation des femmes et des hommes en mettant en place en 1900, dans le troisième programme d'égalité des chances, un réseau d'experts sur les femmes dans la prise de décision, qui, le premier, a montré les statistiques européennes sur les femmes dans la décision publique. L'ONU, bien évidemment, aussi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui impose, lorsque les États ont ratifié la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de réduire les discriminations, notamment en prenant des mesures spéciales temporaires pour arriver à l'égalité. Donc le haut, le Conseil de l'Europe, l'ONU, l'Union interparlementaire, les institutions supranationales ont fait pression pour dénoncer la rareté des femmes dans la décision politique comme un archaïsme et comme un frein à la réalisation véritablement de la démocratie. Par le bas, parce qu'il y a eu un véritable mouvement dans la société pour dénoncer la masculinisation du pouvoir, les 94% ou 95% d'hommes à l'Assemblée nationale faisant la loi. La troisième réflexion que je voudrais faire, c'est pourquoi est-ce qu'on a voté cette loi sur la parité dont nos politiques se targuent. Nous étions le premier pays au monde, ce qui n'est pas tout à fait vrai, à voter une telle loi. Dans d'autres pays d'Amérique latine et même d'Afrique et même d'Asie, il y avait déjà des lois qui imposaient un certain pourcentage de femmes pour aller vers la parité. On se trouve en 1997, en 1993, pardon, devant un échec retentissant de la gauche aux élections législatives. Le Parti socialiste est défait, à la gauche dans son ensemble, mais le Parti socialiste, qui est le premier parti de gauche, est totalement en panne de projet. Et le PS va inscrire, sous la pression d'ailleurs de militantes de base, les militantes dans l'appareil étaient beaucoup plus réticentes, Catherine, va inscrire la parité. Pense pas du tout que les élections suivantes vont être gagnées. Et puis, en même temps, ça a un avantage, ça mobilise des femmes, ça mobilise un certain nombre de gens, ça fait moderne, et ça ne coûte rien. Je veux dire, c'était une mesure formidable. Et donc, comme il y avait cet engagement, le PS qui revient au pouvoir en 1997 par surprise est engagé par ce projet et vote cette loi. Mais on sait aussi, en interne, au sein du groupe socialiste, etc., tous les freins qu'ils ont essayé de mettre pour limiter les effets de la parité. Donc c'est un peu par hasard, quand on avait écrit avec Anne Le Gall et Claude Servan-Schreiber le livre Au pouvoir citoyen, il y en avait comme sous-titre Liberté, égalité, parité. Nous disions, c'était en 92-93, nous disions dans l'introduction que notre voix, notre demande de loi en la faveur avait peu de chances d'être entendu. Nous ne pensions pas que ça irait aussi vite, et si ça a été aussi vite, c'est vraiment pour des raisons conjoncturelles tout à fait particulières. Dernier point, aujourd'hui, et ce sont des laboratoires intéressants, il y a dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux des communes de plus de 30 000 habitants presque autant de femmes que d'hommes, pas plus, un petit peu moins. Certains des étudiants avec qui je travaille font ou sont en train de faire des EA ou des thèses sur ce que change la parité dans la gestion locale. Et mon expérience, que je suis allée un peu sur le terrain pour regarder, et puisque je lis des travaux de ces étudiants, est assez décourageant, et je pense que ça devrait susciter un débat public et une solidarité entre les femmes, ou en tout cas entre les féministes. Les élus, qui sont dans les conseils municipaux depuis 2001, sont épuisés. Elles font un boulot énorme, elles sont découragées du manque de reconnaissance de ce travail, et nombre d'entre elles hésitent à se représenter la prochaine fois. Bien sûr, le problème le plus difficile qu'elles éprouvent aussi, c'est le problème du temps. Le temps des femmes reste différent, pour les raisons qu'on sait, de celui des hommes. Et les hommes avec qui on s'entretient, les élus avec qui on s'entretient de ça, disent très froidement, c'est pas grave, si elles ne se représentent pas, on ira chercher dans la société civile. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux, parce qu'on les tiendra mieux, ces femmes, que celles ils l'ont déjà fait des 2001 dans le choix des candidats. Mais on est véritablement aujourd'hui dans un état de tension en raison d'une mesure que je crois utile pour la société, mais dont il faut aussi qu'on prenne la mesure des difficultés, des résistances, etc.
Merci. J'avais une question justement par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez parlé, évoqué les obstacles, enfin les difficultés que vous avez eues avec les femmes de l'appareil socialiste à l'époque où vous avez mis en place ce combat. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait si peu de féministes parmi les femmes politiques, justement,
Catherine? Je suis pas. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un phénomène de groupe, c'est-à-dire que les femmes. Élus politiques ne sont pas assez nombreuses pour constituer un groupe qui permet l'établissement du rapport de force. Et ça, peut-être aussi qu'on a peut-être une question, à se poser la question collectivement. Enfin, moi, c'est un petit peu ce qui me frappe quand même, c'est de voir qu'on n'a pas cette propension justement à vouloir créer le rapport de force. Et étant minoritaire dans un groupe constitué majoritairement d'hommes, il y a tendance pour un certain nombre, mais pas toutes, je voudrais quand même le dire, de tomber dans les travers que décrivait Véronique tout à l'heure, c'est-à-dire d'abandonner un certain nombre de valeurs que nous défendons, des valeurs fondatrices du féminisme. Je crois qu'il y a vraiment un vrai combat à mener à ce niveau-là. Et moi, je vois, au niveau du groupe socialiste, nous sommes, je ne sais plus, une quarantaine... Non, j'exagère en disant ça. Non, je crois que nous sommes 27 femmes élues à l'intérieur de ce groupe. Bon, on sent qu'on commence déjà à préparer les élections législatives de 2007 et avec des bruits qui nous inquiètent. Ben, on a quand même réussi, l'ensemble des députés femmes... à rencontrer le premier secrétaire pour lui dire de toute façon, on ne se laissera pas faire, on ne touchera pas à l'une d'entre nous, il y aura toutes les autres contre toi. C'est-à-dire qu'on est... et ça, ça a été... Bon. Mais j'allais dire que c'est un sujet un peu nouveau. Et puis, il y a aussi, parmi les femmes, je crois, un problème de génération. Et je pense, et ça, je crois que c'est un sujet qui est très cher à Yvette, qui était très cher aussi Françoise, et qui est très cher à une amie commune qui est Michèle Perrault, il y a une méconnaissance, y compris des femmes, du mouvement féministe et de l'histoire des femmes. Et on a parmi les jeunes femmes qui arrivent à diverses fonctions, d'ailleurs que ce soit dans la fonction politique ou à différents postes de responsabilité, une méconnaissance de l'histoire des femmes, une méconnaissance du féminisme et un refus même de se reconnaître dans le terme de féministe. Et ça, je crois que c'est un sujet très important sur lequel nous devons ensemble réfléchir. Et nous avons d'ailleurs, je vois Maya devant moi qui opine joyeusement de la tête, enfin pas joyeusement d'ailleurs, mais nous voyons d'ailleurs cela y compris dans la façon dont s'exprime le mouvement féministe aujourd'hui, avec plutôt une situation de bloc les uns contre les autres, plutôt que d'un bloc unitaire qui est de dire les combats restent et restent toujours à mener, ils sont permanents, il n'y a aucun combat dans aucun secteur qui ne soit gagné, et de se retrouver ensemble, chacun avec son expression. Actuellement, on vit une fragmentation du mouvement féministe qui est inquiétant et qui, pour partie, c'est sans doute pas la seule raison, est sans doute basée sur une méconnaissance de l'histoire des femmes et de l'histoire et du mouvement féministe.
Oui, je voulais peut-être reprendre un petit peu des événements récents du Parlement européen et notamment de la commission des femmes au Parlement européen pour illustrer ce problème. Au Parlement européen, il y a une série de commissions. J'appartiens à la commission des affaires étrangères, par exemple. Il y en a d'autres, commission agriculture, commission liberté, etc. Et il y a une commission femmes qui, depuis toujours, a été le fer de lance du combat des femmes. Or, ce que l'on constate aujourd'hui est je dis aujourd'hui et depuis quelques années, c'est une régression dans les combats des femmes. Une régression sur le plan de combats qui avaient été essentiels pour nous. Je pense à tout ce qui est la santé reproductive, tous les combats que nous avons menés dans les années 70 pour le droit à l'avortement, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, ces combats ne sont plus possibles à l'intérieur du Parlement européen. Et le mot avortement, par exemple, est devenu tabou. On n'ose pas le prononcer, ce qui est un peu hallucinant. Alors, ce qui s'est passé au début de cette législature est tout à fait instructif sur ce plan. La commission des femmes, qui a toujours vu à sa tête des femmes convaincues de tous les combats des femmes, je pense aux droits égalité dans le cadre du travail, à des droits au niveau décisionnel, mais aussi aux droits à la santé reproductive, à la régulation des naissances, etc., etc., cette commission des femmes a été briguée par une conservatrice slovaque, Madame Záborská, qui était connue dans son pays pour ses positions très conservatrices par rapport au rôle de la femme et pour ses positions anti-avortement et pour ses positions anti-droit à l'orientation sexuelle, puisqu'elle considérait que les homosexuels devaient être traités du point de vue psychiatrique. Donc, cette femme a été proposée par le Parti populaire européen à la tête de la Commission des femmes. Et évidemment, les socialistes et les progressistes se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est bien la première fois que ça arrive. On a déjà eu des femmes venant du Parti populaire européen, mais jamais une femme symboliquement représentant ce type de combat. » Alors, il y a eu des remous épouvantables. Et puis, pour finir, le Parti populaire européen a fait un marchandage en disant « Si vous n'acceptez pas Madame Záborská, nous n'accepterons pas que Madame Pervenche Bérez soit présidente de la commission fiscalité. » Et les femmes socialistes n'ont pas voulu, mais les hommes du Parti socialiste européen ont littéralement imposé cette solution en disant « Eh bien, bon, ne votez pas pour Madame Záborská, sortez de la salle, claquez la porte, mais n'empêchez pas Madame Bérez d'être à la tête de la commission de la fiscalité. » Le combat s'est donc arrêté là, et Madame Záborská, maintenant, est à la tête de la commission des femmes. Mais alors, permettez-moi, je ne vais pas être très longue, de vous dire que Madame Záborská, depuis, adopte un profil bas. On n'entend pas parler d'elle. Elle vient d'ailleurs de m'envoyer un mail pour me souhaiter bon anniversaire. Entre femmes, ça s'apprécie. Mais il y a eu un incident tout de même en début de législature, puisque un bateau de l'association Women on Waves n'a pas pu entrer dans les eaux territoriales portugaises. Et on a évoqué un bateau, l'association Women on Wave, qui fait de l'éducation sexuelle, qui informe les jeunes filles sur tout ce qui est santé reproductive, pilule des 24 heures, etc., etc. Donc, le Portugal a envoyé un bateau de guerre pour empêcher ce bateau de Bondib d'entrer dans les eaux territoriales, et ça a fait évidemment quelques remous au sein de la commission des femmes. Madame Záborská, très prudemment, n'a pas trop pris position, mais il y a tout de même eu un débat public au Parlement européen le 16 septembre. Et je voudrais vous lire ce qu'a dit, et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule, non pas Madame Záborská, mais Madame Kupra. Madame Kupra a pris la parole en séance plénière. C'est une députée polonaise qui a dit « Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier Dieu pour la chance qu'il me donne de m'adresser au Parlement sur la question la plus importante des temps modernes, à savoir la défense de la vie. C'est particulièrement important alors que 50 millions d'enfants sont tués chaque année dans le ventre de leur mère, ce qui équivaut à un génocide d'une bien plus grande ampleur que celle des millions de victimes de l'Holocauste. En quoi le meurtre d'enfants sans défense dans le ventre de leur mère diffère-t-il du bain de sang de Beslan, alors que la peine de mort pour les crimes les plus graves a été abolie en Europe contre la volonté de l'opinion publique, on la prône pour des êtres innocents et sans défense en invoquant cette même opinion publique, sur base de quoi l'Union européenne s'arroge-t-elle le droit de décider de la vie et de la mort d'êtres humains ? Et elle poursuit Madame Coupera en disant que ceux qui défendent le droit à l'avortement sont des personnes dérangées, sans conscience, sans sentiment élevé, sans dignité ni compassion, qui ont été décrites dernièrement comme des personnes immatures, afin de ne pas réveiller les consciences endormies. Après tout, ces personnes étaient autrefois rangées parmi les psychopathes. Donc, nombre de femmes aujourd'hui dans cette salle sont des psychopathes. Bon, ça ne nous gêne pas, nous sommes habitués à être vilipendés de la sorte, mais moins par des députées européennes appartenant à la Commission des femmes, qui elle-même est présidée par Madame Záborská. Comprenez bien que dans ce climat-là, la proposition de Monsieur Rocco Buttiglione comme commissaire aux libertés n'était certainement pas fortuite, et que ce qui est attaqué aujourd'hui, à l'intérieur même du Parlement européen, ce ne sont pas les droits politiques, ce ne sont pas les droits à l'égalité de traitement, ça reste l'éternel problème de la sexualité des femmes, de cette liberté-là. Quand je voyais, avant de revenir, « Mon ventre m'appartient », les grandes manifestations de 1970, eh bien, aujourd'hui, ça revient sur la table. Et il y a encore, dans ces pays qui nous ont rejoints, des femmes qui m'écrivent que jamais elles ne voteront pour la Constitution, parce que la Constitution permet le droit à l'avortement. Alors que, justement, Emmanueli, quand il dit non à la Constitution, c'est parce qu'il n'y a pas le droit à l'avortement. Personne n'y se retrouve plus, personne ne connaît le traité constitutionnel. Mais vous dire que des combats, qui étaient des combats qui ont été menés au Parlement européen, dont on oublie trop que Simone Veil a tout de même été présidente du Parlement européen et l'auteur de la loi, sur l'interruption volontaire de grossesse, ceci s'est oublié. Nous sommes dans une nouvelle ère, nous sommes dans une nouvelle Europe, dans une Europe élargie, où les femmes viennent contrer les combats que nous avons menés. Et quand je dis, parce que c'est le fait religieux qui est en train de monter, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais quand je dis que Hillary Clinton est obligée aujourd'hui de dire qu'elle n'est plus pour le droit à l'avortement et qu'elle envisage favorablement la peine de mort, regardez cette dame-là qui mélange aussi le droit à la peine de mort, l'avortement. Enfin. Donc c'est un retour en arrière sur des plans qui sont très précis et qui tourne autour de la montée du fait religieux. Et donc, quand j'ai dit, quand on pose la question, est-ce qu'il est bon ? Mais oui, il est bon, bien entendu, que des femmes montent en politique, mais n'ayons pas l'angélisme de croire que parce que des femmes montent en politique, elles vont faire une politique d'émancipation. Je reviens sur ce vieux mot émancipation, il n'était pas si mal. Des droits de la femme qui passent par le droit à sa sexualité, tout de même. Et c'est ça qui est refusé de nouveau. Et là, c'est un combat actuel, et je vous le dis, il ne fait que commencer. Alors, je vais finir, mais je serai très longue là-dessus, parce qu'il y a tous les lobbies religieux qui nous acculent. J'ai fait, en 2003, un rapport sur les droits de l'homme qui comprenait le droit à la santé reproductive comme droit de l'homme. La semaine dernière, dans le nouveau rapport des droits de l'homme, le droit à la santé reproductive disparaît et on a voté en commission des affaires étrangères de nouveau que même dans... il y avait un petit paragraphe du nouveau rapport droits de l'homme qui disait que dans le cas de viol, par exemple, de jeunes femmes dans des camps déplacés, etc., il fallait pouvoir songer à une interruption volontaire de grossesse. Ça a été refusé. Voilà, on en est là. C'est un combat de tous les jours. Même le cas d'une gamine qui a été évoquée récemment au Parlement européen, une gamine mexicaine de 9 ans violée, etc., et qui n'a pas eu droit à l'avortement, eh bien, il y a une majorité dans la Commission des affaires étrangères qui va dire non à ça, peut-être pas en plénière. Et je termine par ça. Quand hier, Geneviève Fraisse parlait finalement... du gender mainstreaming, peut-être, mais de la nécessité, justement, et je reviens à l'objet même de la question, de rester des féministes sur des combats précis. Attention, la dilution de ce féminisme ouvre la porte à ce retour des intégrismes. Et je pense que les jeunes ne s'en rendent pas compte. Je pense qu'ils pensent que tout est gagné, mais que de ce côté-là, il n'est plus nécessaire d'avoir un noyau féministe, que c'est vieux, que c'est anachronique. Je vous dis, ce n'est pas anachronique, c'est au contraire d'une actualité brûlante.
Oui, tout à fait. Pour corroborer ce que vient de nous dire Véronique, nous avons connu, alors le débat était sans doute plus polissé, mais il avait exactement les mêmes fondements et le même objectif, le même débat à l'Assemblée nationale avec l'amendement Garot.
Oui, exactement. Hein,
nous sommes exactement dans le même sujet, l'amendement Garot, dont je vous rappelle que c'était un amendement qui avait été proposé à propos d'une loi sur la sécurité routière pour faire en sorte qu'on reconnaisse le délit à une personne qui aurait provoqué la mort du fœtus au cours d'un accident de la route. Dès lors qu'on reconnaissait le délit, on reconnaissait implicitement le statut de personne humaine à l'embryon et au fœtus, et dès lors, on était en plein sur le débat, on revenait sur le débat de l'interdiction volontaire de grossesse. En rappelant que cet amendement Garot, qui a toujours été refusé, et heureusement que l'Assemblée a quand même le dernier mot, à l'Assemblée nationale, a été voté au Sénat en France. Donc je pense qu'effectivement, nous sommes tout à fait dans un climat où les intégrismes reviennent au galop et où je dis, au-delà de tout ce débat, il est important aussi, quand on vote politiquement, et quand on vote politiquement dans chaque État, et en l'occurrence par rapport à l'Europe, de voter aussi pour les partis politiques qui sont des partis progressistes et non pas les partis conservateurs. Et j'allais dire que c'est d'ailleurs une lueur d'espoir pour le Portugal, parce que le Portugal, depuis l'incident que vous avez eu, enfin l'événement que vous évoquez, a changé de couleur politique et on peut espérer que...
Et au Brésil, Lula aussi. J'ai vu la secrétaire d'État au Brésil de Lula et ils vont peut-être libéraliser la porte. Ça s'est fait maintenant ?
Ça s'est fait en partie.
Oui. Mais...
Je voudrais dire quelques mots justement sur le plan international. Parce que la situation est à certains égards paradoxale. Je voudrais d'abord relever que ce qui m'a beaucoup étonné, on n'a pas dit un mot en France, alors je ne lis pas la Libre Belgique tous les jours, on n'a pas dit un mot en France pendant la première quinzaine de mars de Pékin plus 10 qui se tenait à New York. Il n'y a pas eu de mobilisation en France et assez faible en Europe des ONG. Par exemple, il n'y a pas eu de contre-rapport, de shadow report, comme on dit, de rapport alternatif d'associations au rapport français qui aurait pu mériter effectivement un contre-rapport. Cet événement a été, alors que Pékin et Pékin plus 5 avaient donné lieu à une énorme mobilisation partout, pas seulement au niveau national, mais dans toutes les régions, et un grand espoir. Et on sait qu'à Pékin, les droits procréatifs avaient justement été au centre des débats entre les pays conservateurs et les pays, les démocraties, les pays progressistes, etc., parce que les conservateurs, complètement liés à des mouvements effectivement évangélistes notamment, voulaient retirer ce qui avait été acquis lors de la conférence du Caire sur la population en 1993 et qui accordait aux femmes non pas le droit à l'avortement, le mot n'est pas prononcé ni dans la plateforme de Pékin, ni dans le traité international sur les droits des femmes, mais l'accès aux droits procréatifs, à la santé procréative, etc., ce qui ouvre quand même un certain nombre de portes. Pékin plus 5, la bataille avait de nouveau été rude sur cette question. On arrive à Pékin plus 10 et on se trouve devant une configuration très différente de celle de Pékin et Pékin plus 5. À Pékin et Pékin plus 5, silence des États-Unis, on est encore sous l'administration Clinton, et union d'États islamistes et d'États catholiques contre les droits des femmes en général, avec un paquet sur la question des droits procréatifs. Cette année, en mars, les États-Unis déposent un amendement à la déclaration finale pour dire, ce qui n'a même pas besoin d'être dit, mais je vous dirai pourquoi il le disait tout à l'heure, pour dire que la communauté internationale ne reconnaissait pas l'avortement comme un droit, que c'était une affaire des États d'en délibérer. Mais ils ne sont pas arrivés à, comme la dernière fois, comme les pays qui étaient sur cette ligne la dernière fois, à avoir la signature d'aucun pays africain et d'aucun pays d'Amérique latine, où la situation est en train de bouger malgré la pression de l'épiscopat. Le seul allié, les deux seuls alliés que les États-Unis ont trouvés pour faire reculer ces questions, purement formelles, mais quand même, comme on voit ce qui se passe, c'était extraordinaire. La Syrie, au même moment où les États-Unis faisaient voter au Conseil de sécurité un texte sur la demande de retrait des troupes de Syrie, et bien évidemment le Saint-Siège. Et ce qu'on voit, et je termine là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'intéresse dans la lecture qu'on peut faire de l'évolution des droits des femmes au plan international, c'est que les droits des femmes sont à géographie variable. Quand on regarde les débats qui ont eu lieu dans les années dès 1945, pour faire inscrire le mot « sexe » dans la Charte des Nations Unies ou dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que des pays de l'Est, et notamment la Pologne, qui ont été en pointe pour défendre les droits des femmes. La première conférence mondiale sur les droits des femmes à Pékin, en 1975, a été préparée notamment par l'Iran de l'époque. Et on voit qu'il y a des basculements selon les régimes politiques, mais que, en tout cas, ce qui est évident, c'est que, en fait, depuis notamment la fin des blocs, fin des années 80, chute du mur de Berlin, on voit non plus des blocs l'Est contre l'Ouest, le Nord contre le Sud, etc., mais des regroupements, là encore, à géographie variable, de pays qui prennent en quelque sorte les femmes en otage et qui font des droits, ou plutôt des non-droits des femmes, un marqueur pour donner des gages aux forces les plus conservatrices de leur pays. Je crois que ça, c'est très intéressant, qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. Et c'est pour ça que le féminisme, ou les féministes, parce que le féminisme a toujours été divisé, a toujours débattu, a un grand intérêt sur le plan international, parce qu'il faut surveiller ces questions-là au niveau également, non seulement de l'Union européenne, mais de l'ONU, l'Union européenne ayant joué un rôle très très important d'ailleurs à Pékin, notamment sur la question de la parité et des droits procréatifs. À l'époque, c'était l'Espagne qui présidait l'Union européenne, c'était un gouvernement socialiste, et beaucoup de femmes des pays du tiers-monde, des pays en développement, etc., venaient nous voir pour demander d'appuyer un certain nombre de leurs demandes. Je crois qu'aussi la solidarité internationale est quelque chose aujourd'hui de fondamental.
Juste ajouter peut-être tout de même le caractère préoccupant de la politique du Vatican, en tout cas sous le pape actuel, avec cette proposition d'un traité bilatéral entre le Vatican et la Slovaquie, permettant l'objection collective de conscience, et qui serait à ce moment-là une nouvelle façon de contourner la politique européenne en la matière. Et ça, c'est pendant, pour le moment. Enfin, on ne sait pas, comme la vie du pape actuel est suspendue et pendante aussi, on ne sait pas si cette politique-là se maintiendra. Mais en tout cas, ça, c'est une préoccupation.
Françoise Gaspard, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur votre mission à l'ONU? On a parlé de l'Europe, qui s'avère être maintenant le stade auquel il faut lutter, en tout cas. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de l'ONU?
J'ai essayé de les dire rapidement. Donc, il existe une convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui date de 1979, qui est aujourd'hui ratifiée par 179 pays, des 191 pays, à l'ONU, convention qui a été ratifiée par tous les pays de l'Union européenne. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que je regrette globalement que dans les pays de l'Union européenne, cette convention soit peu connue, peu appliquée, peu suivie dans son application par les ONG. Ça évolue, mais jusque-là, ça a très peu été le cas. Alors, par exemple, elle est très utilisée en Amérique latine et dans les pays d'Asie. Les pays, alors le comité, il y a six comités conventionnels des droits de l'homme, de l'homme avec un grand H, des droits humains à l'ONU pour surveiller les grandes conventions sur les droits humains, dont un comité, le comité qui est chargé de surveiller la convention dite CEDAW, donc sur les droits des femmes, composé de 23 experts indépendants. Ils ne sont pas nommés par leur gouvernement, ils sont élus par les bulletins secrets, par les États qui ont ratifié la convention, avec le souci d'un respect d'une répartition géographique équilibrée. Ce qui est formidable dans ce comité de 23 experts, il y a des experts des pays de culture musulmane, des pays d'Asie, des pays d'Amérique latine, des pays européens, c'est qu'on peut dire en gros c'est un comité féministe. Il n'y a pas de désaccords fondamentaux entre nous pour faire appliquer, pour d'abord analyser, interpréter la convention, sauf peut-être sur un article sur lequel nous avons quelques difficultés, qui est l'article 6 sur la prostitution, puisque la convention ne condamne pas la prostitution, mais le trafic l'exploitation de la prostitution. Et sur cet article, nous avons quelquefois des différences entre nous d'interprétation. Mais pour le reste, par exemple, les femmes venant de pays musulmans, c'est généralement elles qui interprètent les pays musulmans quand ils viennent présenter leur rapport d'application de la convention devant le comité, pour leur rappeler que rien n'empêche dans le Coran l'égalité des droits des femmes et des hommes. Il n'y a pas d'affrontement, je dirais, géographique ou culturel. Il y a au contraire une très grande solidarité des membres de ce comité. Les pays européens, alors tous les pays doivent présenter, qui ont ratifié la convention, doivent présenter tous les 4 ans un rapport sur l'évolution de la législation qui porte à la fois sur le droit, mais aussi sur les faits, sur la réalisation de l'égalité de facto. La plupart des pays européens arrivent devant le comité en disant « Oh, mais on est les meilleurs, on est très très bons en Europe, parce que on respecte les directives européennes ». Ce qui est un peu court, puisque les directives européennes, pour le moment, ne concernent que l'emploi et le travail, alors que le traité traite de tous les domaines. L'égalité devant l'école, l'égalité, bien sûr, devant l'emploi, l'égalité devant la santé, l'égalité dans la représentation, etc., etc. Donc la convention est beaucoup plus large. La convention CEDAW est beaucoup plus large que, pour l'instant, la législation européenne. Je pense qu'il serait intéressant que les parlementaires européennes s'en saisissent et, quand elles font des demandes ou des remarques, rappellent aux États qu'ils ont ratifié cette convention, mais que malheureusement, sur bien des points, ils ne l'appliquent pas ou ils l'appliquent insuffisamment. L'une des conclusions de Pékin plus 10 à New York a été une avancée sur ces questions-là, demandant justement aux États qui n'ont pas encore ratifié, dont les États-Unis, mais de ratifier la convention, mais surtout demandant au comité CEDAW de veiller à la diffusion dans tous les pays des jugements qui sont portés sur les rapports, notamment auprès des parlements, auprès des acteurs de la société civile, auprès des ONG, pour faire avancer l'égalité des femmes dans le monde. Égalité qui a avancé sur certains points, mais qui, hélas, sur d'autres points, recule dramatiquement.
Merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne. Peut-être on va donner la parole, vous donner la parole, ouvrir le débat avec la salle. Questions ?
Merci Anne Le Gall. Je voudrais dire une ou deux choses. D'abord, la question, je vais commencer par votre exposé, madame, la question de la parité. Vous savez, c'est quand même un usage abusif du mot de l'employé alors que la chose n'y est pas. Et d'ailleurs, le mot a été mis pour éviter la chose. Mais qu'on le reprenne continuellement, ça me semble fâcheux. Il faut prendre l'habitude d'avoir des mots précis. Il n'y a pas de loi sur la parité. L'article qui a été modifié de la Constitution, ce que pour ma part je ne pensais pas indispensable, mais enfin ça c'est autre chose, est assez cynique quand on réfléchit qu'il dit la loi favorise l'égal accès. Alors ça c'est quand même bon, heureusement que la loi le favorise. Ça voudrait dire, à contrario, que si on ne le disait pas, on pourrait les défavoriser. On peut dire quand même que de compromis en compromis, on va jusqu'au cynisme. Ça, c'est un premier point. Mais vous avez employé beaucoup le mot « représentation ». Et c'est l'habitude, en effet. Ah oui, je voulais dire, pourquoi il ne faut pas employer le mot « parité » ? Parce que la parité, c'est quelque chose de très simple. C'est un concept qui prévoit que, par exemple, puisqu'on en parle beaucoup sur le plan politique, dans toutes les assemblées délibératives, il y a la composition est également d'hommes, et de femmes. C'est une composition, ce n'est pas une représentation. Et c'est, ah oui, je regrette, c'est ça qui va faire changer le concept. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord hier avec Geneviève Fraisse. C'est qu'elle, sur ces questions-là, alors qu'elle est dans une grande recherche conceptuelle, elle est passée très vite. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, cette composition ? Ça ne veut pas dire que c'est de la représentation. C'est que la participation active et continue des femmes est strictement organisée sur le plan institutionnel. Ce n'est pas qu'on va demander aux partis d'en mettre plus, ce n'est pas ça. La composition continue et strictement égale. Voilà. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un fondement politique. Et je dirais la même chose de ce fondement que disait en 1789, puisqu'on a actuellement encore dans la Constitution française cette déclaration parmi les textes de droit positifs, c'est annexé à la Constitution de 58, on y trouve cette phrase de l'époque, qui était pourtant chez des gens misogynes, mais il le disait sur autre chose. Ceux qui n'ont pas la répartition des pouvoirs, cette stricte séparation des pouvoirs, sont réputés n'avoir pas de constitution. Eh bien, il nous faut mettre désormais, parmi les fondements de la démocratie, ce principe de la participation active et continue à parité des femmes dans toutes les assemblées délibératives. Et ça n'a rien à voir avec la représentation. Ça, c'est un premier point, donc. Et je crois qu'il va falloir reprendre le débat, c'est clair. On n'a pas de fondement conceptuel, il faut le reprendre sur ce thème-là. Ce n'est pas quand les hommes disent qu'on commence à avoir mal. Mais je vais revenir à ce que disait madame, ce que vous disiez, madame, qui est parlementaire européenne. Vous avez entièrement raison. Mais vous savez, invariablement, le système consiste à ce que ce soit les femmes, petit à petit, les plus, celles qui sont opposées d'ailleurs très souvent à l'accession des femmes aux fonctions politiques, qui vont être téléguidées par les hommes, parce que tant qu'il n'y aura pas institutionnellement de légitimité à ce que les femmes participent continuellement, c'est les hommes qui les choisiront. Et pourquoi voulez-vous qu'ils prennent des emmerdeuses ? Et il est évident qu'ils vont prendre exclusivement les pires, les pires. Et on les aura, ça va être comme ça, parce qu'ils vont prendre les plus conservatrices. Regardez Madame Thatcher, elle a fait une carrière politique indiscutable. Est-ce que ça aurait été possible d'une socialiste ? Non. Pourquoi ce n'est pas possible du féminisme ? Mais parce que justement, le milieu, la fameuse société civile, les mentalités dont j'entendais parler hier soir, favorisent la vision et je dirais la plus restrictive des droits des femmes. Et c'est imposé d'un tas de manières, parce que les mentalités, c'est ça. Et c'est pourquoi je disais hier, il faut faire très attention à l'emploi de ce mot. Il est absurde en plus, parce qu'il ne favorise pas l'analyse. Ça serait un gros tas de machins, les mentalités. Mais je comprends que les Slovaques, les Slovènes et tous les Curtons vont les pousser. Parce qu'à travers leur lobby, c'est ces femmes-là qui vont aller combattre, comme on a vu celles avec des foulards qui descendaient pour combattre, à juste titre d'ailleurs, les régimes dictatoriaux, mais avec des emblèmes qui en même temps favorisaient un renouvellement socio-social. Voilà ce que je voulais dire. Et je crois que quand même, ces histoires de mots, il faut maintenant faire un peu plus attention à la façon dont on les utilise. Merci.
Est-ce qu'il y a une... vous voulez répondre peut-être ou
Je vais répondre brièvement. J'entends vos arguments. Je suis d'accord sur l'usage abusif du mot dans le sens où vous l'entendez. Je suis contente que vous posiez la question. Effectivement, enfin, vous dites qu'il va falloir continuer la bataille. Donc, ça, c'est. Moi, je voulais poser des questions. Je n'ai pas eu le temps, mais on l'a évoqué sur l'avenir de la parité et surtout sur le fait que. D'abord, je serais peut-être moins pessimiste que vous sur les Slovaques et les Slovènes ou les autres. Ces gens de l'Est, non mais peu importe, les gens de l'Est, effectivement, je comprends très bien, qui sont également des Européennes, hein, maintenant, des Européens et des Européennes, donc peut-être c'est... Et, je veux dire, oui, sur la parité, sur le fait que, qu'est-ce qui peut remplacer la volonté politique, comme on l'a vu en Espagne, quoi, un gouvernement qui est paritaire, pour le coup, et une très forte augmentation du nombre de députés, parce que je crois que c'est 36% maintenant, hormis la volonté politique, aucune des lois et non pas, je ne vais pas répéter la loi sur celle que nous avons connue en France, effectivement, ne fait l'affaire, si j'ose dire. Mais...
Moi, je voudrais revenir sur la question de parité et féminisme. Il y a 10 ans déjà, dans la même salle, le Centre Pompidou, ils ont organisé 3 jours de la fin de féminisme. Et puis tous les intervenants qui ont été invités, presque tous, sur différents accès et différentes disciplines sur les plateaux, ils mettaient en question le féminisme. Et nous, les féministes militantes de terrain, qu'on voyait que les idées féministes ne passent pas partout, il faut continuer à lutter. On était dans les salles et très mal vus. On était, moi, je me souviens, sur la question de Moyen-Orient, comme je suis iranienne et militante féministe toujours de mouvement des familles en Iran et ailleurs, et international, il y avait une dame qui... Vraiment, je ne veux pas nommer parce que c'est une grande romancière, quand elle parlait que en Inde et dans le Moyen-Orient, les femmes, elles sont partout, elles ont droit égal dans leur culture, dans la société. Et moi, comme iranienne, que j'ai perdu tout mon statut femme avec la révolution islamique et le féminisme islamique, féminisme islamiste et islamique qui était enseigné dans les milieux universitaires de Vime Stadi, et nous, les féministes laïques, on était chassés par nos idées parce qu'on venait de Moyen-Orient. Il fallait qu'on travaille sur l'islam, sur l'islamisation de la société qui n'a rien à voir, bien sûr, avec la religion. C'était Françoise Gaspard, quand elle commençait de la lutte pour la parité, je me souviens que j'étais une des rares personnes devant l'Assemblée nationale, parce que je voyais que c'est quelque chose qu'il faut lutter, il fallait au fond. Mais ceux qui en avaient de parole, ils ont oublié les idées féministes. Ils ont oublié les idées... les idées des années 70. Et ceux qui luttaient, ils n'en avaient pas de parole, ils ont été écartés, écrasés. Aujourd'hui, on est là pour le Parlement européen, encore. Et il y avait un autre séminaire, je me souviens, il y a 15 ans, il y avait des femmes de Parlement européen qui ont été là. Il y avait des femmes qui ont été invitées de Moyen-Orient. Il y avait une femme avec le foulard de Égypte, universitaire absolument, qui parlait du statut de la femme en islam inventé, parce que ça, vraiment, ce islamisme intégrisme n'a rien à voir avec la religion de la conviction personnelle depuis deux siècles, comme toutes les religions. Et elle était là, il y avait des députés des femmes européennes que je dis, je vous avertis que les intégrismes est derrière la porte. Parce qu'on a fermé les yeux, vraiment, et puis aujourd'hui, on est là, je veux dire, on a perdu énormément des choses qui étaient gagnées, qui étaient acquises par les féministes depuis 30 ans. Et ça, vraiment, je suis très contente que vous êtes conscient à ça, et puis au début... On a parlé de que vous êtes spécialiste de Moyen-Orient. Nous, les femmes de Moyen-Orient, les femmes laïques, depuis 20 ans, en Europe et en Amérique du Nord, on avait en face des femmes laïques européennes et américaines qui nous envoyaient sur les valeurs plus retardées de nos pays. Dans la même salle, j'étais traitée comme une femme occidentalisée. Et puis je suis 4e génération de femmes modernes de mon pays qui luttent depuis 150 ans pour la modernité dans le Moyen-Orient. Je ne suis pas toute seule, il y a les autres femmes de Moyen-Orient aussi. Et tout ça, on est là aujourd'hui. D'un côté, je suis contente qu'au minimum la question, Françoise, je suis contente qu'il dise que c'est universel, c'est international, la question. On ne peut pas être une femme féministe dans un pays et demander de notre droit sur le corps et de ne pas défendre le droit sur, sur le corps des femmes dans les autres pays, sinon notre lutte est perdue. Et puis vraiment, c'est minimum dans les tribunes, j'entends de ça, il faut organiser et d'aller plus loin. Les débats des féministes, déjà des idées féministes, que déjà le mot féministe, quand on prononce dans le milieu de travail, on est mal vu. De l'autre côté, on a brouillé les idées féministes aussi. Les idées féministes sont brouillées. Le féminisme islamique, j'ai sur mon dos, mais au nombre de parités, tout le temps, par exemple, il y a 10 ans, il y a 4 ans, dans le Parlement iranien, il y avait plus de députés femmes que députés femmes en France. Mais tout le temps, quand il y avait la question de parité, je disais minimum, je milite en France pour avoir plus de femmes dans l'Assemblée nationale, mais quelles femmes ? Je ne veux pas Christine Boutin que ce soit mon élu dans l'Assemblée, parce qu'on a 50 Christine Boutin au Parlement iranien qui sont en train de... En ce moment, c'est les femmes, pas les hommes. Dans le Parlement iranien actuel, dans le Parlement iranien, ils sont, et ils sont, c'est les hommes qui sont derrière, les femmes députées iraniennes, déjà après la révolution, ils nous ont imposé le foulard islamique, il y a les femmes parlementaires en ce moment en Iran qui sont en train de passer un loi encore, un loi vestimentaire, ça veut dire plus de foulard, le chador que rien que ça soit dans le Parlement. Elles sont les femmes qui font ça. Et nous, par rapport de solidarité entre les femmes, on avait oublié énormément des choses entre nous.
Merci beaucoup. Je suis désolée, mais là on est absolument obligé de rendre la salle à 13h. Donc, on va permettre aux gens de répondre. Non, mais... Et
un mot, juste 30 secondes, madame, pour vous dire que ce que vous dites me touche beaucoup. Et c'est vrai que dans tous les pays arabes, j'étais en Arabie Saoudite, j'étais au Yémen, je crois que j'ai fait toute la région, il y a une extraordinaire solidarité féminine qui est en train de se créer, mais contre toutes les formes d'intégrisme. Et quand on dit le féminisme est mort, non, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais il y a aujourd'hui ce nouveau fait de la resurgence des intégrismes qui fait que des femmes qui n'étaient pas nécessairement des féministes convaincues sont en train de recréer des nouvelles formes de solidarité dans lesquelles chacun, je pense, peut se retrouver. Et vous avez tout à fait raison sur les parlementaires iraniennes, je les côtoie et je les vois, je n'ai jamais vu pire antiféministe que ça. Ça c'est... Voilà.
Une dernière question.
Oui, parce que... En France, d'accord, parce que je ne sais pas, donc je posais la question, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de transmission vis-à-vis des jeunes femmes et qu'effectivement, il va falloir se dépêcher d'investir les écoles. Il faut savoir que le Sénat a refusé 159 voix contre 159 voix qu'il y ait une information ou une prévention sur les représentations des images sexistes et autres. Donc c'est vrai que si on ne passe pas par l'école et si on ne passe pas par les collèges, les lycées et les facs, eh bien on n'y arrivera jamais à ce qu'il y ait une continuité dans les combats des femmes. Et c'est vrai que les jeunes femmes ne sont pas au courant qu'il y a une grande régression, elles ne veulent pas savoir, et il y a urgence parce que c'est grave, quoi.
Juste un mot là-dessus, l'histoire des femmes n'est pas enseignée. Enfin, je dirais l'histoire des hommes et des femmes, l'histoire du genre, de façon dramatique. Je fais des conférences, des cours dans les UFM, les instituts de formation des maîtres. Et quand je m'adresse donc à des étudiants qui ont déjà au minimum une licence. Et je pose un certain nombre de questions d'entrée de jeu. Alors, il y en a une que je ne posais plus et que j'ai reposée récemment. De quand date le suffrage universel en France ? J'avais plus de la moitié de réponses inexactes. Mais quand, de 5 ans, moi, je lui ai enseigné ça. pas toutes. Non, mais moi je l'ai enseigné. Moi je l'ai enseigné aussi. Moi je l'ai enseigné aussi, mais ce n'est pas enseigné partout. Et les observations qui viennent d'être faites, par exemple, sur les maternelles, montrent que les stéréotypes ont encore la peau très dure. Il y avait dans Le Monde un article sur une des études qui vient d'être faite, qui était très drôle, si l'on veut. Une institutrice de maternelle dit « Maman porte des gants pour faire la vaisselle, papa porte des gants pour faire de la moto. » Et il y a un petit garçon dans la classe qui dit « Moi, ma maman, elle fait de la moto avec des gants. » Et l'institutrice ne relève pas tellement elle est surprise par rapport à ce qu'elle avait l'habitude d'enseigner. Donc je crois que l'article 5 de la Convention CEDAW demande aux États de lutter contre les stéréotypes sexistes. Je crois que nous avons encore beaucoup à faire dans nos sociétés pour enseigner l'égalité.
On clôt le débat, malheureusement.
Oui. Moi, je voudrais dire quand même à notre ami qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'une Christine Boutin et qu'il y a quand même beaucoup plus de députés femmes à gauche qu'à droite. Et je crois que là aussi, enfin, je crois que quand même les pardon ? Non, non, très insuffisant, mais il y a l'augmentation des femmes à l'Assemblée nationale est due à la présence des femmes dans les groupes de gauche, hein, pas dans les groupes de droite. Hein.
Est-ce qu'on a le temps pour un mot de chacune de nos participantes en
oui,
conclusion
on a quelques minutes pour
voilà, une ou deux phrases sur ce qui vous paraît le
oui,
plus...
Moi, je voudrais répondre à une des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Pourquoi est-ce que finalement... les femmes en politique ne sont pas toutes féministes. Mais je vais prendre mon cas. Moi, j'estimais que quand je suis arrivée en politique, moi qui ai eu, comme toutes les femmes, bon, le travail à la maison, les enfants et puis le travail universitaire, je pensais que j'allais enfin pouvoir échapper, je n'irais pas à la malédiction d'être femme, mais enfin pouvoir faire de la politique, de la politique en matière étrangère, etc. Et puis je me suis retrouvée, mais rattrapée de nouveau par cette problématique des femmes auxquelles nous ne pouvons pas échapper, comme s'il nous fallait toujours ces doubles tâches, c'est-à-dire à la fois faire le même travail que les hommes, moi m'occuper de l'Irak, m'occuper du Moyen-Orient, etc., et puis finalement reprendre tout ce travail pour la lutte des femmes, comme si nous n'échappions pas, je n'ose pas dire à cette malédiction, ce n'est pas une malédiction, mais comme si nous n'échappions pas à ce destin finalement de femmes qui nous oblige quelque part à prolonger notre travail politique dans cette direction-là, parce que, comme on l'a dit, tout reste encore à faire.
Madame ?
Oui, j'ai envie de faire le même constat que Véronique, avec quand même une lueur d'espoir néanmoins que nous a apporté Françoise en disant que le combat féministe est un combat qui est complètement d'actualité. Le féminisme est en danger actuellement et je pense que les intégrismes, le conservatisme, dans la mesure où en plus où de grands États, et en particulier les États-Unis, le représentent, je dirais malheureusement de façon exemplaire, avec d'ailleurs cette information dramatique qui vient d'être donnée, par exemple, en pensant que la candidate démocrate, le Parti démocrate et une femme vont abandonner ces valeurs fondamentales, ça c'est quelque chose de très grave et c'est quelque chose de très inquiétant, mais en même temps avec cette lueur d'espoir qui montre que le combat existe, le combat s'approprie, alors à géométrie variable comme tu le disais, mais je pense que justement l'importance de cette géométrie variable fait qu'on peut penser qu'à un moment ce combat existera sur l'ensemble du territoire terrien et sera approprié par tout le monde. Cela dit, je crois qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais ça passe aussi par la nécessité de mettre en place des mesures très très concrètes dans chacun des territoires politiques qui composent la Terre, enfin, à la fois au niveau de chaque pays, au niveau de l'Europe, mais au niveau de l'ensemble des pays, des mesures très concrètes qui doivent nous permettre d'avancer en ce sens. Bon, on ne l'a pas abordé, par exemple, pour la France, mais je pense qu'il y a des propositions très concrètes à faire en matière de prise de pouvoir des femmes et d'appropriation par les femmes de la responsabilité politique qui n'est pas pleine et entière aujourd'hui, loin s'en faut.
Avec une grande chaleur, une grande solidarité. Je n'ai pas dit que c'était une malédiction, c'est aussi une source de solidarité.
Oui, alors ça, c'est...
dans le combat, oui.
Ouais, soyons optimistes sur ce sujet-là. Les femmes sont aussi des êtres humains.
On a dit qu'il y avait un problème de transmission de génération. C'est une question intéressante et qu'on devra se poser. mais c'est parce qu'on ne n'est pas féministe, on le devient. Et on le devient par l'expérience, souvent des expériences difficiles et douloureuses, et que l'histoire ne se répète pas forcément à l'identique, que de nouveaux défis surgissent sans arrêt. Ce qu'on appelle à l'ONU les problèmes émergents, par exemple. Il y a des nouveaux problèmes d'égalité ou d'inégalité, plutôt des femmes et des hommes, qui se posent constamment. Donc, renaissons féministes, faisons en sorte aussi que le féminisme ne soit pas partagé que par les femmes, mais aussi par les hommes.
Merci beaucoup à vous trois, et merci beaucoup à vous tous, oui, et d'être venus. Il y a quelques hommes.
Oui, merci beaucoup. C'était très, très passionnant. Je vous signale que il y a un projet de retransmission donc sur le site de France Culture dans l'émission sur Internet « Les chemins de la connaissance ». Par ailleurs, nous avons également un projet de publication. Donc, j'espère que ce sera, qu'on pourra le mener à bien. Cet après-midi, nous avons rendez-vous à 14h30 donc, pour écouter l'entretien entre Iva Troudy et Réjane Sénac-Slavinsky à 14h30. Merci.